le magazine des Nations Unies.
Présentation mardi dernier au Conseil de sécurité de l'ONU du rapport trimestriel sur la RDC. Rapport reposant sur trois points essentiels à savoir la situation sécuritaire, le processus électoral et le dialogue stratégique entre les Nations Unies et le gouvernement de la RDC. Nous écouterons Martin Kobler, représentant spécial de Ban Ki-moon. La MONUSCO s'est dit prête à apporter son soutien pour arrêter Sylvestre Muda-Chumura, ce chef de guerre FDLR recherché par la CPI depuis 2013 pour des crimes commis dans l'est de la RDC. La mission onusienne répond ainsi à l'appel de l'ONG Human Rights Watch. Près de 2000 cas de violations de droits de l'homme pendant le premier semestre 2015, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme fait état d'une hausse. En même temps, elle salue la coopération des autorités gouvernementales. Enfin, processus électoral en RDC, le professionnel des médias appelé à jouer positivement leur rôle en évitant des infractions de presse et de fautes professionnelles récurrentes. Éclairage sur les infractions de presse et les fautes professionnelles à éviter pendant le processus électoral avec un consultant à l'UNESCO.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine. Martin Kobler salue la coopération entre les FRDC et les casques bleus de la MONUSCO dans la lutte contre le groupe armé dans l'est du Congo. Le représentant spécial de Ban Ki-moon l'a dit mardi dernier au cours de la présentation du rapport sur la situation sécuritaire en RDC au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Cette réunion a passé en revue le progrès réalisé en RDC depuis l'adoption de la résolution 2211 en mars dernier, une évaluation qui a globalement gravité autour de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. On écoute un extrait du message du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler.
Les opérations contre les FRP démontrent clairement ce que nous pouvons réaliser une fois que les forces de la RDC et la MONUSCO travaillent ensemble. Permettez-moi de saluer ici le gouvernement de la RDC pour la coopération entre les forces de la MONUSCO et les FRDC dans les opérations contre les FRPI. Monsieur l'ambassadeur, le résultat de ce partenariat renforce notre engagement et notre volonté à combattre la menace que représente le groupe armé.
La MONUSCO apporte tout son soutien aux efforts tendant à procéder à l'arrestation de Sylvestre Muda-Chumura, chef de FDLR sous le coup d'un mandat d'arrêt de la CPI pour les crimes commis dans l'est de la RDC. C'est la réponse du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU mercredi dernier lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa à la demande de Human Rights Watch, Jean-Pierre Elali Ikoko, pour les détails.
Dans un communiqué sorti le 13 juillet, Human Rights Watch demande instamment au gouvernement de la République démocratique du Congo et aux forces de maintien de la paix des Nations Unies de prendre de toute urgence des mesures pour arrêter le chef rebelle Sylvestre Muda-Chumura et de le transférer à la Cour pénale internationale à La Haye. L'ONG américaine considère que les forces FDLR sous le commandement de Muda-Chumura continuent d'être impliquées dans de graves exactions contre les civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Et pour M. David Grisley, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, la MONUSCO a dans son mandat l'autorisation de poursuivre et d'arrêter les chefs de guerre.
C'est déjà connu que dans notre mandat, on a la possibilité de faire des arrêts des personnes comme celui-là. On va continuer de collaborer avec le gouvernement et ça tombe dans notre mandat. On est prêt, mais le fait qu'on a fait l'appel n'est pas suffisant. On doit avoir aussi l'opportunité et on va poursuivre.
Félix Bassé, porte-parole de la MONUSCO, estimait pour sa part que l'arrestation du chef rebelle de FDLR devient une nécessité.
Et je peux vous dire deux choses. Un, Sylvestre Mudacumura est à la tête d'un groupe rebelle rwandais qui s'appelle les Forces démocratiques de libération du Rwanda, qui sont au Congo depuis plus d'une vingtaine d'années, et qui, de manière récurrente, de manière systématique, de manière quotidienne à la limite, est en train de perpétrer avec ses hommes de sérieuses violations des droits de l'homme. Donc, ce qui fait que son arrestation devient une nécessité impérieuse. Et à ce titre, la République démocratique du Congo, qui est membre signataire du statut de Rome, qui a reçu pour mandat de la CPI d'arrêter Sylvestre Mudacumura, peut compter sur tout le soutien de la MONUSCO pour l'accompagner dans ce processus-là afin de mettre un terme à toutes ces exactions.
Enfin, que reproche la CPI à Sylvestre Mudacumura? Paul Madidi, porte-parole au bureau de la CPI à Kinshasa.
Ce mandat d'arrêt a été émis en 2012 et il est reproché à M. Sylvestre Mudacumura sa responsabilité pénale en tant que co-auteur indirect au sens de l'article 25 donc du statut de Rome de 9 chefs de crimes de guerre qui auraient été commis entre 2009 et 2010 dans les provinces des Kivu. Meurtre, mutilation, traitement cruel, torture, atteinte à la dignité de la personne, attaque contre les populations civiles, pillage, viol et destruction des biens.
Autre actualité qui a marqué la semaine, c'est la publication mercredi dernier du rapport semestriel sur la situation de droits de l'homme en RDC. Dans ce rapport, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dit avoir enregistré de janvier à juin 2015 un total de 1480 violations de droits de l'homme sur le territoire de la RDC, dont 294 au mois de juin. On écoute José Maria Aranaz, directeur du Bureau conjoint.
Ce qu'on a constaté dans ce rapport biannuel, c'est une tendance à l'augmentation des violations des droits de l'homme par tous les territoires de la République démocratique du Congo par rapport aux rapports de la deuxième moitié de l'année antérieure. La situation en tant que ça continue à être préoccupante. On a documenté 1481 cas de violation des droits de l'homme pendant la première moitié de l'année en cours. On a aussi constaté une amélioration de la relation entre les gouvernements et les Nations Unies en matière de dialogue des droits de l'homme, même si la situation reste préoccupante. À l'Est, où la majorité des cas de violation des droits de l'homme ont été documentés, les groupes armés ont commis des crimes de guerre contre la population civile surtout. Les groupes nommés comme les FDLR, les RPI et les groupes de CECA et les ADF sont les groupes qui ont commis la majorité des cas de violation des droits de l'homme. Les agents de la police, de l'armée et de l'ANR sont responsables de la moitié du cas de violation des droits de l'homme documentés et ça c'est une question de préoccupation. À l'Est, la tendance des cas de violation des droits de l'homme c'est différent et c'est marqué par la restriction de l'espace politique. On a documenté 77 cas de violation des libertés fondamentales reconnues à la Constitution de la République démocratique du Congo qui peut affecter la crédibilité d'un processus électoral à l'avenir.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
2 650 000 $ américains, c'est le montant débloqué par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'UNESCO pour mettre en œuvre le projet Système de gestion de l'information du programme d'éducation et cartographie des écoles, SIG en sigle. L'atelier sur le projet a été lancé à Kinshasa. Selon les directeurs de la planification à l'EPSP, il s'agit d'un programme innovant qui va utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la collecte de données et l'élaboration de la carte scolaire numérique. François Koubindikila explique les facettes de ce projet qui ne manque pas d'intérêt. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
François Koubindikila, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes directeur de la planification à l'EPSP. Vous venez de présenter un projet intéressant, projet SIG et carte scolaire numérique. Expliquez-nous, monsieur, ce projet.
Le projet, c'est système d'information pour la gestion de l'éducation, c'est le SIG en sigle, et carte scolaire.
C'est un projet qui va être financé par la Banque mondiale et dans sa mise en œuvre, les quatre ministères clés en charge de l'éducation, parce qu'ils sont concernés par le projet, ils seront accompagnés par l'UNESCO.
Quels sont les quatre ministères concernés par le projet ?
L'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, l'enseignement supérieur et universitaire, l'enseignement technique et professionnel et le ministère des Affaires sociales en ce qui concerne l'éducation non formelle.
Revenons un peu à ce projet lui-même, expliquez-nous.
Le projet en fait va aider le ministère à organiser son système d'information pour la gestion de l'éducation par la mobilisation d'un certain nombre d'informations dont on a besoin pour gérer les systèmes, pour piloter les systèmes, pour mesurer les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des différents projets et programmes qui sont en cours d'exécution dans le secteur de l'éducation. Donc il y a deux volets, les systèmes d'information pour la gestion de l'éducation. Là, c'est essentiellement la mobilisation des données statistiques et la carte scolaire, c'est essentiellement voir comment les écoles sont implantées à travers le pays, c'est pour voir les disparités qui existent en matière de l'offre scolaire.
Vous parlez également de la production des données statistiques. Quel est le lien entre ce projet que vous appelez CIGE, carte scolaire, et la production des données statistiques?
Le projet va aider les secteurs de l'éducation, donc les quatre ministères clés en charge de l'éducation, à mobiliser des données statistiques. Donc, il y aura la collecte des données et l'innovation dans ce projet, c'est l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. TIC en sigle. Parce que actuellement, nous n'utilisons pas ce système-là. C'est une innovation. Pour le moment, nous utilisons des outils de collecte en version papier que nous envoyons dans les écoles. Et les écoles remplissent les questionnaires. Ces questionnaires remontent jusqu'au niveau central et nous traitons ces données et on finit par publier les annuaires statistiques. Mais ce qui est une innovation, c'est qu'au lieu d'utiliser les outils papier, nous allons utiliser les tablettes, les téléphones mobiles, la connexion Internet pour mobiliser, pour collecter les informations. Et ce que nous gagnons, c'est en termes de temps. Parce que quand nous utilisons la version papier, les papiers qui sont imprimés à Kinshasa, qui doivent arriver jusqu'au niveau des écoles en passant par les divisions provinciales et les sous-divisions, et qui doivent remonter pour leur traitement au niveau national. Or, pour le moment, nos agents au niveau des divisions et des sous-divisions, ils vont aller dans les écoles avec des tablettes, ils vont saisir directement les données et ces données vont remonter. Il y aura des serveurs au niveau des provinces éducationnelles, des serveurs au niveau national. Donc vous voyez, on gagne en termes de rapidité dans la collecte des données.
Et il y aura bien sûr aussi un serveur au niveau central.
Il y aura un grand serveur au niveau central. Donc, leurs excellences, messieurs les ministres en charge de l'éducation, dans leur bureau, il suffira d'appuyer sur un bouton. Si monsieur le ministre a besoin de savoir combien d'écoles il y a, par exemple, dans tel territoire, dans telle sous-division, il suffira d'appuyer sur un bouton et ce système va lui présenter la suite.
Revenons un peu au financement. Quelle est la durée de ce projet et qui finance et à quelle hauteur?
La durée du projet, c'est 3 ans. C'est un financement de la Banque mondiale et à hauteur de 2 600 000 dollars américains.
Et quelle est la part de l'UNESCO? Qu'est-ce qu'il apporte?
L'UNESCO apporte un financement additionnel de 500 000. C'est ce qui va nous permettre d'étendre le projet à 2 provinces qui n'étaient pas initialement prévues, à savoir le Nord et le Sud Kivu.
Vous parlez du Nord et du Sud Kivu, là c'est l'extension du projet, mais quelles sont les provinces concernées par ce projet?
Les provinces avec l'extension au Nord et Sud Kivu, il y en a 8. Il y a l'Équateur et le Kasaï occidental, il y a le Bas-Congo et le Katanga, il y a la province orientale et le Maniema.
Kasaï oriental n'est pas concerné, le Bandou n'est pas concerné, pourquoi?
Pourquoi en fait, dans un premier temps, le financement n'est pas suffisant pour aller dans toutes les provinces. Je crois que le secrétaire général représentant son excellence, monsieur le ministre, l'a indiqué. Nous demandons aux autres partenaires de se joindre à nous pour nous aider à retrouver ce financement qui va permettre au projet de couvrir les 11 provinces du pays.
Monsieur le directeur, je vous remercie.
En 538 nouveaux réfugiés burundais recensés au Sud Kivu, dont 12 385 enregistrés avec le système biométrique. Des statistiques fournies par le HCR, rendues publiques mercredi dernier à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. Et près de 6 000 de ces réfugiés burundais ont été transférés sous les sites de Lusenda, aménagés par le HCR. Les autres sont encore dans des communautés d'accueil, dont la plupart sont d'anciens réfugiés du même pays. Inégalités politiques, socio-économiques et édification de la nation-État en République démocratique du Congo en 2014, c'est l'intitulé d'une étude conduite par le bureau de PNUD RDC avec la contribution du bureau régional Afrique RBA. Cette étude identifie les causes, la dynamique et les conséquences des inégalités cumulatives dans les domaines politiques, économiques et sociaux en RDC. L'ouvrage de cette étude a été lancé jeudi dernier au ministère du Plan. Autre nouvelle, c'est la visite en RDC du président du Fonds international des développements agricoles des Nations Unies, FIDA, M. Kanayo Nwanze. Arrivé le 16 juillet, le président du FIDA poursuit sa visite jusque ce lundi. À Kinshasa, il devait rencontrer les autorités gouvernementales afin de discuter du renforcement de la coopération entre la RDC et son institution. M. Kanayo devait aussi se rendre en Voisie à l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA en province orientale.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Dans le cadre de son programme d'appui aux médias en matière de couverture du processus électoral, le bureau de l'UNESCO Kinshasa a organisé le 13 juillet dernier un atelier sur la prévention des infractions des presses et de fautes professionnelles à éviter pendant les élections. Une cinquantaine de participants représentant plusieurs médias de la place ont pris part à cette formation animée par l'avocat Charles Mouchizi, président de l'ASBEL, le Centre d'échange pour des réformes juridiques et institutionnelles, Sergi, et consultant de l'UNESCO sur les questions en rapport avec les infractions des presses et les infractions liées à la couverture électorale, évoque avec Honoré Misenga Kalala le concept infraction des presses et faute professionnelle. Suivez leur entretien.
Maître Charles Mouchizi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez animé la semaine dernière à Kinshasa un atelier sur la prévention des infractions de presse et des fautes professionnelles à éviter pendant la période électorale. D'abord, Maître, qu'entendez-vous par infraction de presse?
C'est la loi qui définit ce concept, l'article 74 de la loi du 22 juin 1996 qui fixe les modalités d'exercice de la liberté de la presse en RDC, qui définit l'infraction des presses comme toute infraction commise par voie de presse. Voilà, simplement.
Alors, quelles sont les infractions des presses les plus courantes commises en RDC?
Il s'agit le plus souvent de toutes les infractions commissibles par le cri, l'écrit ou la parole. Et généralement, c'est du genre imputation dommageable ou diffamation, l'injure, toutes sortes d'incitations ou d'outrages qui peuvent être tirés justement des faits du travail du journaliste.
Venons-en à la période électorale. Quelles sont les infractions que les professionnels des médias peuvent commettre et quelles sont les peines liées au processus électoral?
Oui, il y a typiquement 4 infractions qui sont prévues à la fois par la loi organique du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mais aussi la loi électorale tout récemment modifiée. C'est la loi de 2011, telle qu'elle modifiée à ces jours, et qui prévoit notamment l'infraction de non-respect du principe d'égalité des candidats. Elle prévoit aussi la divulgation des renseignements individuels en matière électorale. Elle prévoit en outre l'interdiction de faire campagne en dehors de la période électorale et la recherche et communication sur le vote d'autrui, sur le lieu du vote. Et donc, il s'agit des infractions qui sont très très nouvelles par rapport au contexte congolais, par rapport au pays qui vient de se replonger dans les habitudes électorales, mais qui sont malheureusement assez lourdement chargées en termes de pénalités et affectées. On trouve par exemple qu'il y a ces infractions pour lesquelles le journaliste peut encourir jusqu'à 12 mois de prison, et avec paiement d'amende allant jusqu'à 1 million de francs congolais. Donc c'est véritablement des questions qu'il faut encore revoir en termes de réforme pour essayer d'alléger ne serait-ce que le taux de pénalité et donner un peu de la chance à plus de liberté d'expression, plus de liberté de critique des médias. Mais en attendant, je crois, le contexte se porte comme il est. Les professionnels doivent prendre toutes les mesures de garde, toute la responsabilité sur eux de ne pas justement commettre ce genre de fautes qui peuvent être lourdement sanctionnées par la justice.
L'autre concept, c'est celui des fautes professionnelles. Dans quelles circonstances, maître, un professionnel de médias peut-il être accusé d'une faute professionnelle?
En fait, toutes ces infractions peuvent aussi constituer des fautes professionnelles, mais les fautes professionnelles ne sont pas forcément des infractions. Les fautes professionnelles sont des atteintes, des violations des règles d'éthique et de déontologie qui sont attachées à la profession de journaliste. Par exemple, ne pas supporter un confrère lorsqu'il est en difficulté, ne pas lui apporter le soutien nécessaire, ou plagier, ou faire de la contrefaçon sur les œuvres d'autres confrères journalistes. Tout ça, ça constitue des fautes professionnelles. L'indignité, la dépendance, la non-identification de sources, il peut porter atteinte à un confrère, et donc des valeurs qui sont consacrées par le code et qui ne peuvent pas être transgressées et sans se voir être réprimées sur le plan professionnel, notamment par le régulateur ou l'autorégulateur ou même par la corporation elle-même.
D'après vous, maître, quels seraient les facteurs qui favorisent en RDC la commission par de nombreux professionnels des médias, des infractions de presse et des fautes professionnelles?
D'abord, c'est l'ignorance de texte. La plupart d'entre eux ne connaissent pas les textes qui régissent la profession. Ensuite, il y a une sorte de tolérance inacceptable dans le chef d'un certain nombre de structures professionnelles qui ne prennent pas rapidement le courage de sanctionner de manière pédagogique pour prévenir que d'autres fautes ne se commettent pas. Enfin, il y a cette question toujours récurrente des mauvaises conditions de travail au sein des rédactions qui font malheureusement que la plupart des professionnels des médias dépendent largement de leurs sources d'informations en termes de revenus. Et donc, n'ayant pas de salaire, ils sont obligés de mendier presque, excusez-moi le mot, mais cela ne favorise justement pas le professionnalisme.
Donc, pour combattre ces maux, il faut absolument qu'on trouve des solutions à ces trois causes.
Oui, ces trois causes sont interagissantes. Il faut améliorer la formation des professionnels des médias. Il faut leur inculquer la culture de la lecture. Il faut disponibiliser donc des documents au sein des rédactions pour que justement ils lisent et qu'ils sachent au moins quels sont les principes qui régissent leur profession. Mais aussi, il faut que la profession elle-même soit un peu plus rigoureuse du point de vue de la répression de fautes. Enfin, la question des contrats de travail au sein des rédactions, elle est vraiment très très importante parce qu'elle est la seule qui peut sauver encore l'indépendance du professionnel.
Vous êtes juriste, consultant au bureau de l'UNESCO. Quel rôle l'UNESCO entend-elle jouer par rapport au processus électoral, notamment avec les médias congolais?
Bon, je ne me mettrai pas à la place de l'UNESCO pour répondre à cette question, mais que je sache, cette série de formations qui vient de commencer par Kinshasa pourrait s'étaler aussi sur le reste des provinces. Et donc, c'est une question essentielle de renforcement de capacité des professionnels des médias et des médias eux-mêmes dans la couverture électorale. Voilà. Mais pour le reste, je crois que c'est une question à laquelle l'UNESCO peut répondre plus valablement. Le mot que je voudrais prononcer là, maintenant, c'est vraiment un pur souhait, de voir un peu plus de liberté à se développer, un peu plus de liberté de critique pour les médias. On sait aujourd'hui que plus de 90% des médias qui fonctionnent en RDC appartiennent au régime, et donc, ou en tout cas sont proches du régime. Et donc, cela risque de consacrer une sorte de pensée unique et battre en brèche le besoin de la critique dans une période aussi importante que le processus électoral. Et donc, j'en appelle aux autorités à ouvrir plus large le spectre de la critique des médias pour que, effectivement, la population soit informée. Cela va de l'intérêt du droit du public à être informé, à recevoir de l'information, quelle qu'elle soit, et qu'elle critique elle-même, qu'elle prenne sa position, mais qu'elle soit d'abord alimentée en information. En tout cas, la pensée unique dans un processus électoral peut biaiser justement la démocratie.
Maître Charles Mouchizi, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Environ 800 enfants de 5 à 12 ans passent depuis près de 2 semaines leur colonie de vacances dans la diaconie des Pères Xavériens à Kilomoni 2, dans la cité d'Uvira au sud Kivu. Mercredi dernier, la MONUSCO s'est impliquée dans cette activité pour sensibiliser ses enfants et leurs encadreurs à son mandat d'explication du chef de la section de l'information publique de la MONUSCO Uvira. Chantobi Okala au micro des Fiston Goma.
Les enfants, c'est comme une graine qu'on sème et qui doit germer. C'est le fer de lance de toute nation, la jeunesse. Pour nous, c'est important de nous associer à cette activité parce qu'aussi bien les organisateurs, l'Église catholique de Calvin Vira, que la MONUSCO, l'objectif est le même, essayer d'inculquer la culture de la paix, les valeurs de la paix, de la non-violence à ces enfants qui sont appelés par définition à devenir les dirigeants de ce pays demain.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Découpage territorial et cartographie des forces de la MONUSCO, la question est revenue à la conférence hebdo de la MONUSCO mercredi dernier. Vous suivrez la réponse de monsieur David Grisseil, complétée par Félix Bass, porte-parole de la MONUSCO.
Alain Mouzi pour la radio de l'Église du Christ au Congo. Monsieur le porte-parole, en ce qui concerne le démembrement des provinces qui est effectif depuis le 11 juillet dernier, est-ce que cela aura une incidence sur la cartographie des opérations des forces de la MONUSCO?
Le découpage même n'est pas un facteur en fait de notre déploiement. Ça, c'est lié plutôt à la situation sécuritaire sur le terrain. Du côté police, du côté civil de la MONUSCO, on va bien sûr adapter à cet découpage, mais pour la force, ils vont continuer de travailler dans le secteur militaire qui correspond aux besoins sécuritaires sur le terrain.
Oui, merci. Juste pour vous dire qu'au sein de la MONUSCO, nous avons cette capacité liée à la flexibilité de réaménager nos dispositifs en tenant compte justement de ce nouveau découpage administratif. Mais encore une fois, c'est une initiative tout à fait souveraine de la République démocratique du Congo de procéder à ce découpage.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Je m'appelle Mukonkole Kongolo. Mon prénom, c'est Bibi. J'ai étudié jusqu'en troisième année primaire à Lubumbashi. Par la suite, je suis venue ici à Kinshasa pour poursuivre mes études et j'ai obtenu mon diplôme d'état en section littéraire option latin philosophie au lycée Motema Mpiko. Et c'était en 1998. Après mon diplôme d'état, donc j'ai poursuivi mes études universitaires ici à Kinshasa. C'était à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. Là-bas, j'ai obtenu mes diplômes de graduat et de licence en sciences de l'information et de la communication, option journalisme politique extérieur. Et puis concernant mon parcours professionnel, je dois dire que je travaille ici à Radio Capi depuis avril 2012 et je suis journaliste à la présentation du journal. Concernant mon parcours professionnel, avant d'arriver ici à Radio Capi, je l'ai commencé en 2002 à la RTGA, au mois de juillet 2002, où j'ai travaillé pendant 9 mois seulement. Là-bas, j'étais présentatrice du journal télévisé et quelquefois j'étais au reportage. Après la RTGA, j'ai pu rester pendant quelques mois sans travail. Et puis en 2004, j'ai commencé à la radio Parole Éternelle comme journaliste présentatrice des émissions. Il y avait les animations libres et encore d'autres émissions sur le droit et d'autres émissions qui m'étaient proposées par la radio Parole Éternelle. Et j'ai passé environ 8 ans là-bas à la radio Parole Éternelle. C'est en 2012 que j'avais quitté la radio pour la radio au Capi. Concernant mon passe-temps, je peux dire que je suis plus à l'aise en parlant avec des amis. Et je passe mon temps avec ma famille aussi. Ce temps de gaieté en échangeant, en riant, en essayant un peu de parler d'autre chose que du travail, parce que je dois dire que je passe beaucoup plus de temps au travail. Et pour ce que j'aime manger, j'aime bien du poisson fumé au pondou et des badins de plantain. Je n'aime pas trop les viandes et tout ce qui entoure les viandes. J'aime bien les poissons. Et pour le sport, j'aime bien le volleyball. Je me rappelle lorsque nous étions au lycée, il y avait des compétitions qui étaient organisées comme ça, entre classes. Quand bien même je n'étais pas très dedans, hein, j'apprécie quand même comment se passe ce sport. Et j'aime bien aussi toutes les disciplines sportives qui font partie de l'athlétisme. tout ce qu'on organise lors des Jeux Olympiques, par exemple, ou lors des grandes compétitions dans le monde. Oui, je suis une amoureuse du gospel. J'aime bien le gospel. Je suis plus les cantiques qui édifient l'âme. Hein. J'aime bien, je suis vraiment accro à ça. Après Radio Capi, qu'est-ce que je ferai? Je ne sais pas où je serai, mais je prie que Dieu me donne cette grâce-là de pouvoir accomplir ce que j'avais voulu faire depuis longtemps. Je ne voudrais pas le dire ici, c'est un peu, c'est personnel. Donc que le Seigneur me prête vie pour que je puisse l'accomplir.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch, entame à partir de ce mercredi 21 juillet une visite de travail en RDC. Son séjour prévoit notamment des entrevues avec les autorités congolaises sur la situation des droits de l'homme en RDC. Notez également que le 23 juillet prochain, c'est la journée mondiale de la jeunesse. Voilà tout pour votre agenda de la semaine. C'était un réel plaisir de vous avoir nombreux. Prenez rendez-vous pour un autre numéro de votre magazine des Nations Unies. Merci, à la prochaine.